Casimir de Lavigne a écrit « Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort ». Montaigne exprime la même pensée quand il dit « Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive ». Dans les mille et une nuits, on lit aussi « La mort peut bien t'oublier un jour, mais elle ne t'oubliera pas le lendemain ». Et au XVIe siècle, les gens avaient coutume de dire « Contre la mort, point de remède ». Pourtant, l'apôtre Paul écrit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Mais, en attendant ce jour, la mort met un point final à tout ce qu'un homme peut entreprendre. Je continue à lire dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leurs fonctions à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Versets 23-25. Même s'il n'était pas parti en retraite, les prêtres, selon l'ordre d'Aaron, n'auraient pas pu exercer leur ministère indéfiniment à cause de la mort. Il devait donc sans cesse être remplacé, ce qui est un point faible du sacerdoce lévitique. Aaron, le premier grand prêtre, est mort, puis Moïse, le grand législateur, est mort, lui aussi. Tout comme ces deux hommes, la loi et les sacrifices qu'ils représentaient étaient temporaires et appelés à disparaître le jour où apparaîtrait la perfection en Jésus qui, lui, demeure éternellement et possède le sacerdoce perpétuel. Le mot traduit par « perpétuel » signifie « immuable, inaltérable, impossible à changer ». Parce qu'il est de nature divine, le sacerdoce de Jésus ne peut jamais cesser d'être modifié ou transmis à quelqu'un d'autre. Et puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu, Jésus peut sauver parfaitement, efficacement et entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Sous l'ancienne alliance, les sacrifices couvraient les fautes temporairement, mais ne les enlevaient pas. Par contre, Jésus a le pouvoir et le vouloir de les ôter définitivement et à tout jamais à ceux qui se confient en lui. Le salut consiste à s'approcher de Dieu et il a les bras grands ouverts pour tous ceux qui viennent à lui au moyen de la foi en Jésus. La certitude du salut, quant à elle, repose sur le fait qu'au ciel, Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Je ne suis pas capable ni de me sauver moi-même, ni de le rester. Mais Jésus en a la puissance. S'il commence à cheminer avec un troupeau de 100 brebis, il terminera avec 100 brebis. Chaque fois que je commets une faute, Jésus dit à son Père, « Porte ça sur mon compte, je l'ai déjà réglé par mon sacrifice. » Grâce à sa présence perpétuelle aux côtés du Père, Jésus fait office de médiateur permanent. Et parce que les croyants lui sont unis, ils sont irréprochables aux yeux du Père. Je finis maintenant le chapitre 7. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite, pour ceux du peuple, lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse, mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel prononcé après la promulgation de la loi est son propre fils, et il a été rendu parfait pour toujours. Versets 26 à 28. Les prêtres israélites étant des hommes pécheurs, ils devaient offrir des sacrifices non seulement pour le peuple, mais aussi pour eux-mêmes. Ces animaux, qui étaient sans cesse immolés, rappelaient les fautes ainsi que leur gravité qui nécessitait que le sang soit constamment versé. Mais avec Jésus, tout est différent. Il est sans péché et la justice personnifiée. En effet, nul n'a jamais pu l'accuser de quelque faute que ce soit. Il est saint par rapport à Dieu et innocent envers les hommes, n'ayant jamais fait de mal à quiconque. Il était sans la moindre souillure morale ou spirituelle et n'a jamais été contaminé par les fautes de ceux qui l'entouraient. On pourrait le comparer aux rayons du soleil qui balayent un tas d'immondices. Ils jettent leur lumière, réchauffent l'atmosphère et ont une action désinfectante, mais ne perdent jamais ni leur splendeur, ni leur pureté. Jésus a vécu au milieu d'un dépôt d'ordures sans être entaché. Puis il a offert sa vie sainte en sacrifice, non pour lui-même, mais pour vous et pour moi. Il n'a accompli cet acte de justice qu'une seule fois, mais sa valeur est éternelle et infinie. Jésus est le grand prêtre parfait dont nous avions besoin pour être notre sauveur et nous représenter devant Dieu. Nous arrivons au chapitre 8. Dans le précédent, l'auteur a montré que la supériorité du sacerdoce de Jésus était liée à sa personne parce qu'il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Maintenant, l'auteur va parler en détail de la nouvelle alliance. Je commence à lire. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Versets 1 et 2. L'auteur commence par mentionner deux caractéristiques supplémentaires de Jésus qui soulignent la supériorité de son sacerdoce sur celui des prêtres israélites. D'une part, il est assis à la droite de Dieu, et d'autre part, son sanctuaire est céleste, dressé par le Seigneur. Sous l'ancienne alliance, les prêtres ne s'asseyaient pas parce que leur travail n'était jamais terminé, puisque les mêmes sacrifices devaient être constamment répétés. De toute façon, il n'existait aucun endroit dans le temple où on puisse s'asseoir. Il est vrai que dans le lieu très saint se trouvait le coffre sacré qui représentait le trône de Dieu et le grand prêtre était la seule personne autorisée à y pénétrer une fois par an. Cependant, il devait faire très vite et il aurait été extrêmement blasphématoire pour lui de s'asseoir sur ce coffre, ce qui lui aurait d'ailleurs valu d'être foudroyé sur le champ. Par contraste, il est dit de Jésus qu'il est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. Curieusement, l'auteur a commencé cette épître en disant que Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus a pu s'asseoir parce que l'œuvre de la rédemption était achevée une fois pour toutes et à tout jamais. Avant de mourir, ses dernières paroles sur la croix furent « Tout est accompli ». En s'offrant lui-même, Jésus a accompli ce que tous les prêtres de l'Ancien Testament ne pouvaient jamais faire. Pourvoir au pardon des péchés de manière définitive et ainsi rendre possible la réconciliation de l'homme avec Dieu. Le salut réalisé par Jésus étant absolument parfait, il est impossible et absurde de penser qu'on pourrait y ajouter son grain de sel. Se tenir à la droite d'un souverain était un grand honneur, mais s'y asseoir était l'honneur suprême. Or, c'est à la droite du trône céleste et éternel de Dieu que Jésus s'est assis. il n'existe pas dans tout l'univers et au-delà de position plus glorieuse que celle-là. Ce n'est pas tout, car le siège de droite symbolise la grâce. En effet, lorsque le tribunal suprême juif siégeait, le juge qui le présidait avait deux secrétaires, un à sa gauche qui notait les actes de condamnation et un autre à sa droite qui rédigeait les acquittements. Jésus est donc dans le ciel assis sur un trône d'honneur, mais aussi un trône de miséricorde d'où il déclare que ceux qui lui font confiance sont libres de toute condamnation. Cela dit, Jésus ne reste pas toujours assis. À la fin de son discours, et alors que les responsables religieux juifs grinçaient des dents contre lui, le texte dit que le diacre Étienne leva les yeux au ciel et vit Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Suite à ces paroles, il fut mis à mort, mais Jésus s'était déjà levé pour l'accueillir dans la gloire. Jésus accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, qui est le véritable tabernacle dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Au premier siècle, il y avait des philosophes grecs mystiques qui enseignaient que tout ce qui est matériel n'est que l'ombre, le reflet du réel qui se trouve dans un univers parallèle, et notre monde n'est que la représentation, la copie éphémère du véritable monde. Ces philosophes n'étaient pas loin de la vérité, car selon l'auteur inspiré du Saint-Esprit, il existe dans les cieux un sanctuaire qui est le véritable, parce que réel et permanent. Il n'est pas fabriqué avec du bois de cèdre, de l'or et du marbre blanc, et il ne peut ni vieillir ni être détruit. C'est un sanctuaire spirituel éternel. Sous l'ancienne alliance, tous les meubles du temple et les ustensiles qui servaient au culte de l'Éternel avaient été fabriqués par deux hommes que l'Éternel avait doués d'habileté. Mais, malgré leur beauté, c'était des articles faits hommes. Pareillement, le temple, ses rites, ses cérémonies et ses sacrifices n'étaient que des images et des reflets des réalités de la nouvelle alliance. Et le sacerdoce lévitique n'était que l'ombre de la vraie prêtrise aujourd'hui exercée par Jésus-Christ, le véritable grand prêtre. Je continue le texte. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Versets 3 et 4. Puisque les rôles des prêtres est de faire des offrandes et des sacrifices, Jésus, le grand prêtre céleste, doit lui aussi avoir quelque chose à présenter. Toutefois, l'exercice de son ministère ne pourrait pas être terrestre, puisque cette fonction était remplie par les prêtres descendants d'Aaron qui officiaient encore dans le temple de Jérusalem, qui était toujours en service au moment de la rédaction de cette épître. De toute façon, comme Jésus ne faisait pas partie de la tribu sacerdotale des Lévites, il ne pouvait pas légalement exercer sur terre. Ce n'est pas tout, car comme cela a déjà été dit, Jésus est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non pas d'Aaron. Jésus ne peut donc exercer son sacerdoce que dans le sanctuaire céleste. Je continue. Les prêtres israélites sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. « Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Verset 5. Le tabernacle du désert fut construit sous la direction de Moïse, conformément au modèle céleste que l'Éternel lui avait montré. Mais ce n'était qu'une copie du sanctuaire véritable. Je continue. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Verset 6. La position assise de Jésus à la droite de Dieu et la réalité d'un sanctuaire céleste prouvent la supériorité absolue du ministère sacerdotal de Jésus sur celui des prêtres de l'Ancien Testament. Mais que ce soit l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, elles furent toutes deux fondées sur des promesses faites par le Dieu qui honore toujours ce qu'il dit. Seulement, le régime de la grâce sous laquelle nous sommes aujourd'hui est bien supérieur à la loi de Moïse avec le tabernacle terrestre où les sacrifices sans cesse répétés soulevaient toujours le problème du péché sans jamais le résoudre une bonne fois pour toutes. En effet, la loi ne faisait que révéler les fautes humaines et ne pouvait jamais amener quiconque à la perfection. Jésus a mis fin à ce système inférieur en offrant un sacrifice unique et parfait. Après sa mort, il est, semble-t-il, allé présenter sur l'autel du sanctuaire céleste et sous une forme spirituelle son sang qui a été agréé par Dieu. Dans ce passage, Jésus est appelé « médiateur ». Un mot que l'auteur utilisera encore deux fois. Dans le système lévitique, le prêtre et le prophète étaient tous deux des médiateurs entre Dieu et Israël, l'un par l'entremise des sacrifices et l'autre par le biais de la parole d'exhortation. Ces médiateurs avaient été établis par Dieu, mais ils n'étaient que des images du véritable médiateur qui viendrait en la personne du Messie et qui fut à la fois prophète, prêtre et sacrifice, et qui un jour sera également roi de toute la terre. Je continue le texte. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. » Versets 7 et 8. L'ancienne alliance n'était pas défectueuse, mais inadaptée, parce qu'elle ne faisait que mettre en évidence le péché du peuple désobéissant et idolâtre. De toute façon, elle avait été donnée afin de préparer les hommes à la venue du Messie Sauveur, qui, lui, réconcilierait d'une manière complète et définitive l'homme pécheur avec le Dieu trois fois saint. L'auteur commence ici à reproduire à quelques mots près une citation tirée du prophète Jérémie dans le but d'attirer l'attention de ses lecteurs sur leurs propres écritures. L'Ancien Testament, qui annonçait déjà depuis des siècles la venue de la Nouvelle Alliance et ses avantages sur l'Ancienne. Le simple fait qu'une Nouvelle Alliance ait été prophétisée prouve que l'Ancienne était provisoire. Je continue le texte. « La Nouvelle Alliance ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. » Versets 9 à 10. Cette nouvelle alliance a plusieurs caractéristiques qu'il est utile de mentionner. Tout d'abord, elle a Dieu pour auteur puisque c'est lui qui parle par la bouche de Jérémie. Deuxièmement, si elle est dite « nouvelle », c'est qu'elle est différente de l'ancienne et non pas une simple amélioration. En fait, elle diffère radicalement de l'ancienne. « Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, dit Dieu. » Troisièmement, la nouvelle alliance, comme l'ancienne, ont été établies avec les Hébreux. Dieu dit « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. » L'Éternel n'a jamais établi une alliance avec les non-juifs. Ceux qui sont d'origine païenne, comme moi et peut-être vous, sont au bénéfice de cette alliance, mais Dieu n'a pas traité avec nous. Les apôtres étaient tous juifs, et à ses débuts, l'Église était entièrement juive. Puis, les non-juifs s'y sont joints, mais ils ont été comme greffés. C'est en tout cas comme ça que l'apôtre Paul l'envisage quand il écrit « Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui par ton origine païenne étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. » Israël en tant que nation est comparé à un olivier cultivé. Après avoir rejeté l'Éternel, puis son fils le Messie, Israël a subi des jugements terribles. Mais les branches ainsi coupées ont en quelque sorte fait de la place pour que les non-juifs puissent être hantés sur l'olivier d'origine. Pour cette raison, lorsque des non-juifs acceptent Jésus par la foi, ils deviennent descendants spirituels d'Abraham. Dans l'Ancien Testament déjà, les non-juifs pouvaient devenir des prosélytes et participer à l'alliance de la loi. Cette possibilité existait parce que quand Dieu avait établi son alliance avec le patriarche Abraham, il avait dit « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi ». Aujourd'hui, il y a bien davantage de non-juifs que de juifs dans l'Église de Jésus-Christ, mais à la fin des temps, à la fin de la grande tribulation, tous les juifs encore en vie accepteront Jésus comme leur Messie et Sauveur. Il faut bien savoir que Dieu n'a pas transféré son alliance avec les Israélites à un autre peuple. En effet, Jésus a dit à la femme samaritaine « Le salut vient du peuple juif ». Dieu n'a pas non plus rejeté le peuple qu'il a choisi. Le prophète Jérémie écrit « Je les ramènerai de la terre du nord, je les rassemblerai des confins de la terre, et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici aux nations. Écoutez ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel qui disperse Israël viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. » S'il est vrai que par sa désobéissance et son idolâtrie, Israël n'a obtenu aucune des bénédictions que l'Éternel lui avait promises, la nation n'a pas pour autant perdu sa vocation et sa place dans le plan de Dieu. Et un jour, Dieu reprendra son programme avec les descendants d'Abraham.